Jean-Marie Drault, c'est pour nous l'occasion de voir un nouveau film de vous avec André Malraux, journal de voyage avec André Malraux à la recherche des arts du monde entier. Jean-Marie Drault, vous êtes d'abord un voyageur ou d'abord un voyeur?
Je crois que je suis les deux, parce que je crois que voyager sans voir, ce serait véritablement être un aveugle qui se déplace, et je crois que la chance qu'on a aujourd'hui, et dont il faut profiter à plein, c'est de pouvoir voyager et voir, justement. Et je crois qu'en disant cela, on donne une très bonne définition d'André Malraux, justement, pour commencer. Parce que je pense qu'il a été, tout au long de sa vie, tout au long de cette passion pour les arts du monde entier, qui a duré quand même 50 ans, car ça commence, ne l'oublions pas, à 20 ans, et ça se termine à 75 ans, eh bien, tout au long, il a été aussi un voyageur, et un voyageur qui a voyagé pour découvrir l'autre, pour découvrir les autres. Et une de ses dernières découvertes, je ne vous apprendrai rien en vous le disant, ce fut justement Haïti, l'art d'Haïti, Saint-Soleil,
André Pierre. Un peu grâce à vous, Jean-Marie Drault. Un peu grâce à vous.
Oui, grâce à moi. En fait, c'est-à-dire que quand on travaillait ensemble, à ce moment-là, je terminais le montage des trois films sur Haïti. Et puis, n'ayant pas eu assez d'expression dans ces trois films, il y a eu le film, il y a eu les trois films, et puis ensuite il y a eu le livre chez Skira. Effectivement, ça a coïncidé au moment où on travaillait ensemble. Et je crois que, bon, évidemment, ça l'a intéressé, mais il connaissait déjà. D'ailleurs, j'ai jamais réussi, moi, en amenant comme ça un peu au hasard toutes sortes d'images à André Malraux. Il avait découvert, je crois, pour la première fois l'art haïtien au Festival des Arts Nègres à Dakar. C'est là où, pour la première fois, il avait vu une exposition où il y avait déjà Préfète Dufaux, André Pierre. Et disons que notre conversation l'a poussé à venir voir. Et là encore, c'est très, très beau. Je trouve que cet homme de 74 ans, il avait 74 ans l'année dernière, déjà malade, est venu, a fait l'effort pour venir voir. Et ce qui est extraordinaire avec Malraux, c'est qu'il aimait les arts sans établir de hiérarchie. Je veux dire que venir découvrir les peintres paysans aux mains éblouies de Saint-Soleil, c'était pour lui aussi important que d'aller regarder un Rembrandt. Et dans son texte, dans l'Intemporel, où il parle, comme vous savez, de sa découverte de Saint-Soleil, c'est un de ses derniers textes, il est extraordinaire de voir que pour lui, Saint-Soleil, les grands primitifs haïtiens, sont dignes d'entrer au Louvre. Et c'est quelque chose qui prouve à quel point, pour André Malraux, il n'y a pas d'esthétique. C'est ça que je crois qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas un homme qui se balade à travers le monde comme un esthète. C'est un homme qui, à travers le monde, recherche, à travers les arts du monde entier, ce que l'homme a su créer pour résister à la mort. Je crois que tout au long de sa vie, ça a été ça, son obsession. Il y a une espèce de parallèle à faire entre cette passion qui dure, comme on disait tout à l'heure, 50 ans, et cette passion de l'homme qui, depuis Lascaux, Altamira, donc il y a 25 000 ans, jusqu'à Saint-Soleil, jusqu'à ces peintres qui continuent à travailler aujourd'hui, il y a cette tentative de donner à l'homme quelque chose qui résiste à la mort. Et d'ailleurs, Malraux le dit dans le film qu'on verra ce soir d'une façon extraordinaire, il dit « Dans ce monde, le nôtre, où tout est voué à la mort, il y a cependant un domaine de l'homme qui est bien sûr lui aussi voué à la mort et qui pourtant la dépasse, c'est l'art. » Et je crois que chez cet homme, qui était agnostique, il le dit, il le répète, qui ne croyait pas à la rédemption, il y a quand même cette croyance, cette foi profonde en ce qu'il y a de sacré dans l'homme. Et je crois que c'est cela, sa rencontre avec Saint-Soleil et avec l'art haïtien en général, c'est qu'il a vu là une manifestation du sacré dans une peinture, dans une expression qui, à l'époque, à cette époque-là, était assez peu connue encore en France, parce qu'il y a eu les trois films que j'ai faits, il y a eu le livre, mais enfin, je veux dire que c'est quand même Malraux qui maintenant, est comme dernier cadeau, on peut dire, comme dernière manifestation de son génie et de son intelligence, c'est lui qui véritablement ouvre la porte à Haïti sur le plan de ces grands musées dont nous parlions tout à l'heure.
Pourtant, le film que vous présentez à l'Institut français, Jean-Marie Drault, n'est pas le film du voyage d'André Malraux en Haïti. C'est autre chose.
Pas encore.
Alors, pas encore. Mais toujours, précisons pour vous cette rencontre entre Jean-Marie Drault et André Malraux. Pourquoi André Malraux? Pourquoi y avez-vous pensé? Comment cela s'est-il produit et comment
Alors,
cela s'est-il réalisé?
Ça, c'est une longue histoire parce que, en fait, depuis très très longtemps, à la télévision, moi j'ai toujours voulu être un peu le passeur, enfin le Saint-Christophe, disons, le modeste Saint-Christophe entre les arts et les hommes. Ça a été une des séries que j'ai faites depuis très longtemps à la télévision, série dans laquelle il y a eu des rencontres avec des gens aussi différents que Marcel Duchamp, Chagall, Zadkin, Giacometti, Les Heures Chaudes de Montparnasse, j'en passe. Et puis alors l'autre série à laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'était une série qui s'appelait justement Journal de voyage. Et Journal de voyage, c'était la tentative, si vous voulez, de découvrir, mais d'une façon vivante, pas d'une façon didactique, pas d'une façon dogmatique, de découvrir la vie culturelle dans un pays. Alors ça donnait ça, Journal de voyage en Pologne, en Grèce, en Égypte et
Yougoslavie.
En Haïti. En Yougoslavie, oui, les naïfs haïtiens, les naïfs yougoslaves. Et alors, tout naturellement, je trouvais qu'avec Malraux, on pouvait tenter la synthèse de ces deux séries. On pouvait justement, à travers un homme, à travers le regard d'un homme, montrer que, dans le fond, on pouvait organiser un voyage à travers le monde qui serait centré sur l'art. Et alors, on en a parlé, c'est un projet qui remonte à 2 ans, 3 ans même peut-être, au moment où l'ORTF existait encore. Et puis, ça a été assez long à mettre en route parce que la disparition de l'ORTF et son remplacement par des sociétés de programme a un peu compliqué les choses. Vous savez comme moi que quand de nouveaux chefs arrivent, de nouveaux directeurs arrivent, ils n'ont pas tendance, comme première manifestation, à reprendre ce qui a été fait avant eux. Enfin bref, on a réussi à démarrer cette série. Et pour démarrer cette série, on a fait ce qu'on appelle dans notre affreux jargon un pilote. Un pilote, c'est-à-dire qu'André Malraux et Jean-Marie Drault sont retournés à l'école, ont fait leur devoir, et après avoir fait leur devoir, on leur a dit « Mais écoutez, c'est épatant ce que vous avez fait, on va continuer la série ». Et ce qu'on va voir ce soir, c'est en fait le premier film qui a été réalisé dans cette série qui comportera 8 ou 9 heures. Et c'est le film, justement, qui est dérivé de l'irréel, le grand livre qu'il a écrit juste avant l'intemporel, l'irréel qui est la découverte des arts de la Renaissance en Italie par André Malraux et de Rembrandt. Et en fait, dans ce film que nous verrons ce soir, c'est Florence, la Florence du style sévère, c'est-à-dire la Florence de Masaccio, la Florence de Piero della Francesca, la Florence de Donatello, que nous allons voir à travers les yeux d'André Malraux. Parce que là encore, je crois que il est très important, dans ce monde de l'audiovisuel, auquel Malraux croyait tant, ça on peut y revenir, parce que je crois que c'est quand même un point extrêmement important, il est extrêmement important, je crois, qu'on puisse découvrir que l'art, ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose d'enfermé dans un musée, mais c'est quelque chose d'éternellement vivant. Et Malraux avait ce génie, véritablement, de réchauffer tout ce qui est dans le musée pour en faire quelque chose qui participait de la vie sensible, de la vie sentimentale, de la vie poétique. Et c'est un peu ce qu'on verra ce soir avec des complicités musicales qui sont prises chez Monteverdi, qui sont prises chez Gesualdo. Parce que je crois que ce type de film, il faut justement qu'on puisse les lire à plusieurs niveaux. Pour certaines personnes, c'est un album de belles images avec des belles musiques. Pour d'autres, c'est la pensée d'André Malraux qui s'exerce dans la recherche de ce qu'a été un Piero della Francesca. Et je crois que tout cela se complète. Tout cela n'est pas incompatible, pas du tout. Et alors, revenons un instant sur l'audiovisuel, parce que ce qui est très frappant dans l'intemporel, son dernier livre, puisqu'il est sorti 2 semaines avant sa mort, c'est d'abord, évidemment, de voir arriver, de la même façon qu'il parle, comme on le disait tout à l'heure, de Rembrandt, comme peu de personnes ont parlé de Rembrandt, de Piero della Francesca, c'est de voir arriver, justement, les arts primitifs, et avec, très bien placés, les arts d'Haïti, mais aussi de se rendre compte que nous sommes la première génération, il y insiste, où nous disposons pour la première fois, par la photo, par le film, de tout ce qui a été produit sur le plan des arts depuis 25 000 ans. Nous sommes la première génération qui pouvons faire des voyages imaginaires entre la peinture de Lascaux, faite 25 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à Picasso. De Picasso, on peut refiler vers les Nouvelles-Hébrides, on peut venir en Haïti, on peut aller en Afrique. Bref, nous avons tout cela, et c'est cela qui a amené Malraux à dire qu'il y avait, on était en face, en fait, de la troisième métamorphose de l'art. La première métamorphose, bien entendu, ça a été le musée. le musée qui est très récent, parce qu'on croit toujours que les musées ont toujours existé, mais si on y réfléchit, les musées ont d'abord été des collections royales, et c'est seulement au XIXe siècle que le Prado, pour prendre cet exemple, sous Ferdinand VII, s'ouvre au public. La même chose en Angleterre, la même chose en France, avec la collection des Orléans, la galerie d'Orléans, sous Charles-Philippe. Donc tout ça, c'est tout à fait récent. Deuxième métamorphose, nous rappelle Malraux, c'est le musée imaginaire. C'est-à-dire cette espèce de jeu que la photographie permet, et qui permet justement de faire ces voyages imaginaires à travers le temps et dans l'espace, et qui fait dialoguer, qui fera dialoguer une statue du bouddhisme avec les anges de Chartres, qui fera dialoguer une figure de Saint-Soleil avec une sculpture d'Ahomène. Et la troisième métamorphose, et c'est peut-être en celle-là que Malraux croyait le plus, c'est l'audiovisuel. C'est-à-dire, c'était la façon de se servir de l'audiovisuel pour partager, pour qu'il y ait partage de toutes ces richesses, qui sont, pour Malraux, ne l'oublions pas, notre seule façon de vivre une certaine immortalité, notre seule façon d'éprouver en nous-mêmes l'espoir qu'il existe une grandeur de l'homme, comme il dit, l'honneur et la grandeur d'être homme. C'est la dernière phrase, comme vous vous souvenez, de la voix des silences. Et alors je crois que quand on était en face de Malraux, c'était un peu cette espèce de quête passionnée d'un homme qui avait parcouru le monde, justement pour vérifier tout ce que l'homme avait su construire contre la mort.
Et c'est ici qu'intervient Jean-Marie Drault. Vous avez compris qu'il est de plein pied dans cette troisième étape, cette troisième métamorphose, en donnant vie, silence et musique à la pensée de Malraux et à la vision de Malraux en réalisant ces films. Ces films qui seraient, en quelque sorte, si je comprends bien Jean-Marie Drault, la transposition sur pellicule de ce dialogue entre les différentes étapes de l'art dans le monde entier.
Et je dirais même peut-être le testament de Malraux, parce que moi je suis très frappé quand un homme de l'envergure de Malraux disparaît. On est très frappé, bien entendu, on est très peiné. Mais en même temps, on se dit, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va survivre? Parce que la mort transforme ce qu'on croyait être un dialogue en quelque chose qui ne va plus bouger. Ça devient un dialogue de marbre. Alors, je suis à peu près personnellement persuadé d'une chose, c'est que nous sommes dans un moment très difficile, parce que nous sommes dans un moment où la société dans laquelle nous vivons, et Malraux disait, pour le citer encore une fois, ce n'est pas la peine d'aller dans la Lune si c'est pour s'y suicider, on est dans un moment où toutes les valeurs sur lesquelles on a vécu pendant des siècles ont disparu, et toute transcendance, elle aussi, est remise en cause. Et peut-être, et c'est l'interrogation de Malraux à travers l'art, peut-être l'homme ne peut pas vivre sans certaines valeurs, peut-être l'homme ne peut pas vivre sans une certaine transcendance, ou du moins faut-il qu'il invente autre chose. Alors, moi je vois en tout cas le testament de Malraux comme cette interrogation incessante de l'art, des arts du monde entier, pour reprendre la formule, pour aller y chercher non pas quelque chose de passéiste, non pas un plaisir esthétique, mais exactement comme Diogène, le personnage de l'Antiquité qui se baladait avec sa lanterne à la recherche d'un homme. Moi je vois très très bien Malraux, à travers ses films, s'adresser à la jeunesse qui vient pour lui dire, eh bien, tout ceci qu'on vous transfère, tout ceci qu'on vous donne à travers l'audiovisuel, toutes ces valeurs, toutes ces images, c'est en définitive ce qui a été fait depuis que l'homme pense, depuis le néolithique, disons. Bon, et maintenant, il faut que vous inventiez de nouvelles valeurs si vous voulez que la vie continue à avoir une saveur. Il n'est pas question d'aller même plus loin que ça. Mais la question de Malraux, qui me paraît être la question qu'il nous pose au-delà de sa mort, c'est celle-ci. Que va-t-on inventer pour que l'homme puisse justement continuer à vivre dans une certaine dignité, dans une certaine fierté de lui-même? Et jusqu'à présent, il faut bien dire que les réponses se font assez rares, parce que nous sommes dans une époque où, en définitive, tout est devenu terriblement et monotonement horizontal. Il n'y a plus de ces valeurs qui donnaient leur piment, qui donnaient leur verticale à la vie. Et je crois que Malraux s'adresse ainsi à la génération, aux générations qui montent, qui viennent, et leur pose ce problème, car n'oublions pas que Malraux n'est pas un homme qui apporte des réponses, c'est un homme qui apporte des interrogations. L'homme de l'interrogation.
Pourtant, Jean-Marie Drault, pendant de longues semaines, vous avez interrogé Malraux. Vous avez interviewé Malraux pour réaliser vos films. Comment se sont déroulées ces interviews? Comment répond André Malraux?
C'est une très bonne question parce que ça nous amène à poser le problème du fonctionnement de la pensée d'André Malraux. Alors, je crois qu'il faut raconter ça très simplement. On avait rendez-vous à Verrières, là où il habitait, dans le banlieue de Paris, chez les Villemorin, et on tournait toujours dans ce qu'on appelle là le petit salon bleu. Pourquoi? Parce que les murs sont tendus d'étoffes bleues. Il arrivait, toujours extrêmement ponctuel, toujours parfaitement habillé comme un homme de la ville qui a choisi de vivre à l'ombre des grands arbres du parc des Villemorin, saluant les uns les autres, s'asseyant, et l'interview commençait, je veux dire, les questions qui étaient tirées de ces textes. Car l'idée, c'était, bien entendu, de lire une œuvre devant son auteur. C'était cela, notre idée. Notre idée, c'était, puisqu'on avait la chance, avec la caméra
et le microphone,
d'avoir l'auteur, c'était véritablement de le confronter avec ses propres textes pour en savoir un peu plus long. Et alors là, se produisait quelque chose qui est ce que j'appellerais l'envol supersonique de l'intuition. Il y avait chez Malraux, bien entendu, on a dit et répété, André Gide a écrit là-dessus des phrases célèbres, que Malraux était probablement l'homme le plus intelligent du siècle. Mais quelle intelligence ! Parce que des hommes intelligents, on en connaît beaucoup. Et ce qui était extraordinaire, je dirais, avec Malraux, c'est que son intelligence était une intelligence de sensibilité extrême et d'intuition extrême. Il y avait en lui quelque chose qui s'apparente à ce que j'appellerais la transe. Et c'est un mot qui, bien entendu, en Haïti, a un sens tout à fait précis. Je dis la transe parce que quand il parlait, il n'expliquait pas, il ne synthétisait pas, il n'improvisait pas. Il y avait chez lui quelque chose qui était comme la révélation d'une vérité absolue et dont il s'emparait comme par miracle. C'est-à-dire, je crois que c'était un homme qui avait cette faculté extrêmement rare de pouvoir transformer en mots, en phrases, ses intuitions de poète. Moi, j'ai toujours vu Malraux comme un poète qui a su mettre en mots ce qu'il sentait dans chaque œuvre d'art. Et c'est pour ça que je crois qu'on peut parler véritablement de transe. Dans un de ses livres les plus récents, qui s'appelle « Roi, je t'attends à Babylone », qui est un texte très étrange, très curieux, il y a là-dedans une femme qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Madame Kodari Pacha, qui était une médium. Et il dit, en parlant d'elle, elle était visitée. Eh bien, je dirais assez volontiers que Malraux était visité. Et je crois que notre étonnement, quand il nous parlait d'un Rembrandt, et que tout d'un coup, par cette sorte de pensée saltante, une pensée kangourou, il passait de Rembrandt à l'art roman, de l'art roman, il bondissait vers l'Inde, et puis pour revenir sur un petit détail de l'art byzantin, tout cela ne relevait bien entendu pas d'une gymnastique cérébrale. Tout cela était l'expression d'une sensibilité qui établissait des liens secrets, mais évidents pour celui qui écoutait, entre des morceaux de la création humaine, de la créativité humaine, dont il était, si on peut dire, le Saint-Christophe. Pour moi, Malraux, c'est un homme qui faisait se rencontrer des étoiles filantes. Il y avait une façon en lui, il y avait une prestidigitation de la sensibilité. C'était un homme qui réussissait à nous rendre évident quelque chose que nous sentions à peine. Et c'est en cela que, curieusement, il y a dans la pensée de Malraux quelque chose qu'on pourrait appeler un didactisme poétique. Je veux dire qu'il n'explique jamais rien, mais il rend évidentes des rencontres que des hommes moyennement sensibles ne sentiraient pas, ne réaliseraient pas. Et c'est en cela, je crois que, on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est en cela, je crois que la jeunesse, lorsqu'elle sera sortie des images fausses qu'elle a sur Malraux, je veux dire les images fausses, c'est-à-dire l'homme d'État, c'est-à-dire l'homme du pouvoir, c'est-à-dire des choses très importantes d'ailleurs, mais elle découvrira qu'il est d'une certaine façon un des leurs. Car la jeunesse actuelle, dans sa façon de sentir le monde, ne procède pas autrement. Elle le fait peut-être avec moins de génie, elle le fait peut-être avec moins d'éclat sur le plan du langage, mais je sens qu'il y a entre cette pensée de Malraux, cette pensée intuitive de Malraux, et la pensée des jeunes qui cherchent, qui tâtonnent, mais à travers la sensibilité, presque jamais à travers le cérébral, il y a une sorte d'étrange parenté, et que je voudrais que ces films permettent la reconnaissance de l'un à l'autre.
Pourtant, vous le présentez comme un poète. Certes, c'est un poète génial et on s'en rend compte en l'écoutant. Je me souviens avoir eu une demi-heure d'interview avec lui. Et émotion, sensibilité et même...
Les connaissances, bien sûr, oui, parce que c'est une mémoire fabuleuse. Et...
Mais il y a une sorte de, d'analyse immédiate, analyse spontanée, analyse à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Parce que passer du 13e siècle japonais à la période romane et puis tout de suite présenter Saint-Soleil dans la foulée, je n'ose même pas dire dans la foulée, il y a là une sorte de... Vous refusez l'acrobatie intellectuelle, mais c'est comme une opération...
Non, je refuse l'acrobatie intellectuelle parce que ce n'est pas pour moi un processus seulement intellectuel. Ce qui est intellectuel, c'est la mise en forme d'une intuition. Je veux dire que s'il n'y avait pas cette sensibilité qui cherche, qui tâtonne et qui a cherché pendant toute sa vie, je crois qu'on serait en face d'un exercice de style qui, dans le fond, nous laisserait assez indifférents. Il y a beaucoup de professeurs à travers le monde qui réussissent à faire ces espèces d'amalgames et, dans le fond, nous ne les suivons pas.
Et même de grands poètes, Jean-Marc Boudreau, parce que ce que vous dites là me rappelle beaucoup... Et pourtant, il y a une différence énorme. Il y a des années-lumière entre Valéry et Malraux. Il y a là une intelligence supérieure, une intelligence vraiment géniale. Lisez Le Cimetière Marin et vous vous rendez compte de cette intelligence qui porte la sensibilité. Tandis que pour Malraux, j'ai l'impression que c'est l'inverse.
C'est sûr. Et c'est pour ça que je parle de transe, et c'est pour ça que j'emploie le mot médium. Et c'est pour ça qu'on est au bord de quelque chose qui est... la magie, qui est le sacré et la magie. Et c'est pas par hasard, à mon sens, que sur la fin de sa vie, par quoi Malraux est passionné. Il est passionné par deux découvertes essentielles. Il travaille là-dessus. Il travaille sur les sculptures vaudou du Dahomey, qu'un de mes amis lui a apporté beaucoup de photos, beaucoup de documentation, un garçon qui s'appelle Kershach, qui est un grand collectionneur. Et puis, il fait le lien... Et il fait le lien intuitif, car, bien entendu, un historien peut très bien s'imaginer que Dahomey, Haïti, doit se passer quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est cette mémoire mythique. C'est de se dire, mais comment, et d'ailleurs, la question se pose à nous tous, comment ces gens de Saint-Soleil, qui n'ont probablement jamais vu d'image, qui n'ont probablement même rarement feuilleté des magazines, vont retrouver tout au fond d'eux-mêmes, tout au fond d'une mémoire qui est séculaire, pour ne pas dire millénaire, vont retrouver des typologies de formes, de signes, qui sont ceux, justement, de l'Afrique éternelle. Comment ça se transmet ? Comment est-ce même possible que ça dorme à l'intérieur d'un homme et que ça attend, d'une certaine façon, le jour où un tiga, une Maud Robard, offre les possibilités de l'éclosion. C'est comme un œuf, si vous voulez, à l'intérieur duquel il y a une gestation qui dure des siècles. Et puis tout d'un coup, hop, l'œuf s'ouvre et la créativité à l'état pur apparaît. Alors je crois que c'est pas par hasard que sur la fin de sa vie, Malraux, dans le fond, a interrogé ce que l'art a de plus magique. Reprenons les derniers textes de Malraux. Tous les derniers textes de Malraux sont des textes qui sont véritablement liés directement à la mort. La mort de Gaulle, ça donne les chaînes qu'on abat. La mort de son grand ami Georges Salles, le directeur des musées de France, ça donne « Roi, je t'attends en Babylone ».
Lazare.
Lazare, sa propre mort. La pierre d'obsidienne, la mort de Picasso. Et on pourrait continuer les exemples comme ça. Donc je veux dire que... Et cette mort, il faut aussi la penser en termes de civilisation. Moi je crois qu'une des obsessions de Malraux, à la fin de sa vie... C'est de se dire comment va-t-on faire pour qu'on n'aille pas se suicider dans la Lune. Comment va-t-on faire, j'y reviens parce que ça me paraît fondamental dans la pensée de Malraux, du Malraux de toute sa vie, mais encore plus du Malraux de la fin de sa vie, qui sent que cette civilisation dans laquelle nous sommes est en train véritablement de se traîner, de s'affaler, de s'affaisser. Peut-être vivons-nous, il le disait, vivons-nous quelque chose qui ressemble à la mort de l'Empire romain. Alors, il cherchait désespérément quelles étaient les valeurs qui allaient permettre l'espoir, qui allaient permettre le renouveau, le redémarrage. Et ce n'est pas par hasard, à mon sens, qu'il va chercher cela dans des directions qui sont Les derniers Picasso. Les derniers Picasso, ce sont les deux dernières expositions que Picasso a fait, en Avignon, sur les murs d'Avignon, que Malraux appelait ses deux jugements derniers, et qui sont composés d'œuvres extrêmement magiques, extrêmement fortes. Ce sont les fameux tarots de la fin de Picasso. C'est évidemment Saint-Soleil, et c'est évidemment la sculpture fétiche du Dahomey. Bon. Alors, en face de tout ça, ce qui est très frappant, c'est qu'il va chercher le contrepoison, on pourrait dire. Il va chercher ce qui a assez de force pour pouvoir, justement, nous aider à surmonter cette espèce de monde de béton, cette espèce de monde de consommation, cette espèce de monde sans âme dans lequel nous nous enfonçons de plus en plus systématiquement. Et je crois qu'il y a quelque chose, ça va peut-être vous faire sourire, mais il y a quelque chose d'une démarche d'un sorcier dans le dernier Malraux. Il y a une attente de l'art qui est l'attente de certaines opérations magiques qui peuvent réussir là où tout le reste a échoué. Je veux dire qu'il y a presque une remise en cause du monde strictement rationnel dans lequel on est. Il y a quelque chose de ce genre, en tout cas. Il y a une interrogation sur toutes ces valeurs sur lesquelles nous avons vécu, et il espère ailleurs.
Oui, Jean-Marie Drouot, cela, et je m'en rends compte, cela est la conclusion à laquelle vous arrivez après avoir longuement interrogé Malraux dans ses livres, et personnellement, cela vous donne raison.
Je ne crois pas qu'il est question d'avoir tort ou raison.
Non,
de se demander quelle est la dernière interrogation de Malraux, parce que, bien entendu, cette dernière interrogation ne peut être que la nôtre. Enfin, je veux dire que, ne nous faisons pas d'illusions, je veux dire que cette interrogation, c'est celle d'un Henry Miller que j'ai rencontré il y a un an quand je fais le film sur Delteil, c'est celle de Delteil, et Miller me disait, c'est l'interrogation de tout homme intelligent. Je veux dire que cette interrogation, elle est normale, ce qui est évidemment plus difficile, c'est la réponse, parce que la réponse, elle viendra là aussi en tâtonnant, elle viendra dans une sorte de mystère que Malraux écoutait, regardait à travers ses dernières œuvres qui véritablement sont venues à l'extrême pointe de sa vie. Et on ne pensait pas à ce moment-là que c'était la fin de sa vie. On pensait que c'était une étape vers autre chose. On pensait qu'après l'intemporel, après la découverte de Saint-Soleil, il y aurait d'autres Saint-Soleil. Et dans le fond, c'est très émouvant à mes yeux que la dernière grande rencontre dans la vie de Malraux, qui en a connu tant, qui a vraiment passé sa vie en voyageur qui vraiment se bagnaude aux quatre coins du monde, c'est pour moi très émouvant que sa dernière rencontre, elle se passe là-haut sur un morne, à Soissons, chez Tiga et chez Maudreba, et que ce soit une rencontre dont le seul langage, ce sont les toiles. Je veux dire qu'il n'y avait pas de dialogue possible à la limite entre ces hommes qui descendaient, comme il le décrit très bien dans l'interview que nous avons fait ensemble, qui descendaient de la montagne en portant leurs toiles sur leur dos. C'est quelque chose de très bouleversant de penser que ces hommes que rien ne prédestinait à être des créateurs viennent rendre hommage, sans le savoir, à cet homme qui va mourir. Et il y a là quelque chose d'assez bouleversant qui a l'air véritablement... on ne sait pas l'expliquer, mais c'est vrai, on voit cet homme qui est là, moi je vois très bien la maison, je vois bien la véranda, je vois les gens qui descendent avec leurs toiles, qui viennent rendre hommage à cet homme qu'ils ne connaissent pas, dans le fond. Il y a quelque chose comme une opération magique là-dedans. Et quelque chose qui est très touchant, très imprévisible. Il faut en parler sur la pointe des mots, si on peut dire. Parce que on sent bien qu'il se passe quelque chose de grave là-dedans, quelque chose de rare.
Et de sacré.
Voilà. Dans le fond, c'est le mot. C'est ça qui est extraordinaire chez Malraux, qui encore une fois est un agnostique, un homme qui n'est d'aucune religion, mais qui les a toutes étudiées. C'est de voir que cet homme a un respect du sacré que bien des marchands de sacré n'ont plus. Et c'est ça qui me rend cette dernière scène tellement belle. Enfin, c'est cet homme qui attend, ces hommes, ces femmes qui arrivent avec leur création, leur toile que personne n'attendait plus, et la rencontre se fait, comme si c'était programmé quelque part. Et là, je crois que on ne peut que se retirer sur la pointe des pieds parce qu'on ne peut rien ajouter.
Vous croyez à cette programmation, quelque part?
Je n'en sais rien. Je me pose la question depuis pas mal de temps.
Vous vous posez toujours la question, Jean-Marie Drouot?
Bien sûr. Oui.
Vous n'y avez pas encore répondu?
Comment peut-on ne pas se poser la question?
Comment peut-on se poser encore la question à votre âge?
Peut-être parce que je suis plus jeune que j'en ai l'air. J'en sais rien, en tout cas je me la pose la question. Et toute la vie d'un Malraux d'ailleurs est placée sous le signe de ces choses qui surgissent, qui ont l'air de n'avoir aucun sens, et qui en définitive sont le sens secret de la vie, enfin.
Jean-Marie Drault, pour finir, nous avons beaucoup parlé de Malraux, mais très peu du film qui nous permet de pénétrer l'univers de Malraux, le premier film, le pilote, comme vous avez dit, sur Florence, qui nous permet de voyager avec lui, avec vous, à Florence. Alors ce film pilote, Florence à Port-au-Prince, là aussi, ou bien il y a une sorte de clin d'œil du destin, ou bien il y a un hasard.
Mais je crois que oui, je crois que c'est ça le sens de cette manifestation organisée si gentiment par Louis Deblé, ambassadeur de France.
C'est l'Institut français.
Et l'Institut français, bien sûr, et de tous ceux qui sont là. C'est véritablement que Malraux a reçu, comme j'ai essayé de le dire, un cadeau inappréciable, d'une grande valeur, d'Haïti. Et dans mon idée d'homme de film et de livre, enfin, je me suis dit, mais dans le fond, il faut que même mort, au-delà de sa mort, Malraux vienne faire un cadeau aux gens d'Haïti. Et ce cadeau, c'est son Florence. Et je trouve que ça devrait être ça, dans le fond, l'audiovisuel. Ça devrait être des espèces d'échanges de lettres. Ça devrait être, je t'écris, tu m'écris, nous nous écrivons. Ça serait une bonne définition de l'audiovisuel.
Et Jean-Marie Drault est le facteur. Jean-Marie Drault est
le facteur.
L'ange Gabriel.
Voilà,
le Legba.
Il faudrait des sacrés, des sacrés ailes. Non, disons simplement le facteur. Oui. Moi, je suis ravi d'avoir ce rôle de facteur d'un continent à un autre. Et si cette projection de ce soir peut donner à quelqu'un, à quelques personnes, on ne cherche pas la majorité, le sentiment que Malraux est véritablement quelqu'un à qui il faut revenir, qu'il faut relire, qu'il faut tranquillement dans la solitude écouter, eh bien je crois que le voyage en Haïti, en dehors du plaisir que j'y prends chaque fois, n'aura pas été inutile.
J'ai dit aussi le Legba. Parce que j'ai l'impression aussi que vous êtes une sorte d'intercesseur, d'intermédiaire entre quelque chose programmé il y a très longtemps
et ça, puis les autres. Répondre.
Non,
ça je peux pas répondre.
Non.
On peut dire en tant que Legba sérieux, en tout cas on peut dire que la projection se fait ce soir. Il faut quand même que Legba soit sérieux, non? Alors la projection se fait ce soir à 18h, 6h comme on dit ici, à l'Institut français, et bien entendu... c'est gratuit, on attend tout le monde, vraiment tout le monde.
Bon, alors, ça c'est la publicité, mais la dernière question à Jean-Marie Drault, qui me brûle les lèvres. Bien sûr, vous réalisez le message de Malraux, l'intention de Malraux d'utiliser l'audiovisuel pour l'autre chambre, l'autre pièce du musée imaginaire. Mais... est-ce qu'en filmant ces œuvres d'art, en les mettant sur pellicule, vous n'avez pas l'impression ou de trahir quelque chose, ou de transposer, de profaner quelque chose de sacré?
Non, je ne crois pas. Je crois que l'audiovisuel est véritablement là, joue son rôle de transmission. Et c'est si vrai que quand on a fait ce film sur Florence, beaucoup de mes amis, enfin beaucoup, on dit toujours beaucoup, puis il y en a deux ou trois, mais enfin ça suffit, sont retournés à Florence. Et ils m'ont dit, en revenant, ils étaient fous furieux, absolument fous furieux, parce qu'ils m'ont dit, écoute, t'es Donatello, ta merveilleuse annonciation de Donatello, mais on ne la voit pas. Ces magnifiques sculptures qui sont à San Lorenzo, au moment où Donatello a près de 80 ans et qu'il est au summum de son art, on ne les voit pas. Et c'est vrai, quand on fait le tour des musées, des églises, des temples, la chose qui m'a toujours sidéré, c'est qu'on ne voit rien. Alors je trouve au contraire que l'audiovisuel, dans bien des cas, va apporter à celui qui l'attend, et là encore, on arrive de nouveau à ces choses qui arrivent, et qui partent et qui passent et dont on ne sait pas grand-chose. C'est le seul moyen, bien souvent, pour voir quelque chose. Et je crois que voir à travers l'œil d'un autre, et à travers, on peut même dire, les yeux de deux autres, parce qu'en fait, il y a l'œil de Malraux et puis il y a l'œil, il y a le mien quand même, qui dans le fond est derrière la caméra et qui choisit, qui sélectionne les détails, les choses. Mais je crois qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le partage. C'est le partage, et quand on crée dans un film un climat de respect, un climat de fierté, je dirais aussi, autour des œuvres d'art qui survolent le temps, qui dépassent le temps, qui narguent la mort. Mais j'ai le sentiment que l'audiovisuel, et là c'est la pensée de Malraux, c'est pas la mienne, que l'audiovisuel, lui aussi, peut devenir sanctuaire.
Ajoute une dimension.
Peut devenir sanctuaire. Simplement, ça peut être le lieu où se fait la rencontre avec le sacré. Et comme je disais tout à l'heure, profitons à plein des... Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant que les gens qui disent « Ah, aujourd'hui, tout va mal. » Bon, enfin, c'est pas vrai. Et ce qui va mal, c'est qu'on ne se sert pas des moyens dont nous disposons pour enrichir l'homme, qu'on s'en sert pour enrichir les comptes en banque, ce qui est, dans le fond, entre nous, complètement différent. Mais filer à travers le monde, pouvoir aller en Inde, regarder les temples... Venir à Saint-Soleil, c'est fantastique, et c'est notre époque, et se servir de l'audiovisuel pour que la jeunesse dispose dans sa fraîcheur, dans sa vie, à travers un homme comme Malraux, des grandes œuvres des arts du monde entier, mais c'est être pleinement de son temps, c'est être pleinement contemporain à l'époque dans laquelle nous vivons, et je crois que l'audiovisuel peut jouer un rôle fantastique, bien entendu, si nous le voulons, et si nous ne nous contentons pas seulement de faire de l'audiovisuel un dépotoir à films, à chansons, à Gugus et à tout ce que vous voudrez.
Et si, comme Jean-Marie Drault le sous-entend, comme nous le comprenons entre les lignes, en écoutant, entre les mots en écoutant Jean-Marie Drault, si l'on fait de la caméra un autre œil magique.
Oui, c'est ça.
Merci.
Respectueux, oui.
Merci Jean-Marie Drault.